montrer leur comportement et bien appuyer pour une monde qui change.
Comprendre ce qui va se passer dans le cadre du changement climatique.
Mon métier fait de moi une observatrice du genre humain.
On arrive maintenant à voir les cratères à la surface des astéroïdes.
On travaille sur des données qui sont à des millions de kilomètres. Et là, ils sont dans mon ordinateur.
Acteur de science.
Acteur de science.
Acteur de science.
Dans les coulisses de l'OSU.
Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode à la rencontre d'un acteur de science. Je m'appelle Savinien et je suis actuellement à Château-Gombert où je vais à la rencontre de Pierre Vernazza, observateur de talent au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Et c'est parti.
Bonjour Pierre.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CNRS en planétologie ici au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ce métier fait de vous un observateur ?
Eh bien en fait, donc moi ce que j'étudie c'est un peu la formation et l'évolution du système solaire. Et pour apporter des nouvelles contraintes au scénario de formation, en fait j'observe les divers objets qui sont dans le système solaire. Alors plus spécifiquement les petits corps qui comprennent les astéroïdes, les comètes, les objets au-delà de Neptune qu'on appelle les objets transneptuniens. Et j'observe également les fragments de ces objets qui nous parviennent sur Terre sous forme de météorites. Et pour ceci j'utilise des réseaux de caméras qui sont un peu dispersés sur toute la France, qui font partie d'un réseau qui s'appelle le réseau Fripon. Et donc pour mieux comprendre les astéroïdes, les comètes et ces objets qui sont plus distants, j'utilise des gros télescopes qui sont soit accessibles par exemple au Chili, des télescopes de l'Observatoire européen, ou parfois qui sont disponibles en orbite autour de la Terre comme le télescope spatial Spitzer qui était américain, ou par le passé, et encore actuellement l'HST.
À travers les différentes missions que vous menez, y en a-t-il une plus importante que les autres ?
J'ai pas plus importante, c'est-à-dire que dans le temps, il y a des projets qui sont plus importants que d'autres. Donc à l'heure actuelle, je vais plutôt vous parler de celui actuellement qui me tient à cœur. C'est un programme d'observation, ce qu'on appelle un large programme, que nous avons obtenu, que j'ai obtenu en tant qu'investigateur principal il y a un peu plus d'un an à l'Observatoire européen, donc sur le télescope du VLT. Et nous utilisons un instrument nouvelle génération, c'est une caméra relativement révolutionnaire qui s'appelle Sphère, et avec laquelle nous observons les plus gros objets de la ceinture principale, les plus gros astéroïdes. Et c'est cette combinaison instrument-télescope a une résolution angulaire sans précédent. Par résolution angulaire, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir des détails à la surface des objets qu'on ne pouvait pas voir précédemment avec par exemple le HST. Et on arrive maintenant à voir les cratères à la surface des astéroïdes, et c'est vraiment une révolution dans ce domaine. Et donc ça nous permet de commencer à faire de la géologie et de la géophysique à partir du sol, chose qui n'était pas possible précédemment. Ce genre de science ne pouvait être que conduite via des sondes spatiales qui allaient voir ces objets in situ, soit durant des survols, soit en se mettant en orbite autour de ces objets-là, comme ça a été par exemple le cas de la mission Rosetta qui a survolé l'astéroïde Lutetia, ou de la sonde américaine Dawn qui s'est mise en orbite autour de Vesta et Cérès.
Et alors qu'est-ce que ça apporte de pouvoir observer ces éléments-là depuis la Terre ?
Alors on n'en est pas encore à faire de la datation et du comptage de cratères, c'est pas aussi précis que ça, mais ça peut vraiment nous permettre de déchiffrer un petit peu l'évolution collisionnelle de ces objets-là, de voir si ils ont tous été subi le même nombre de collisions, des collisions majeures. Ça nous permet également à travers ces images de reconstruire leur forme, et via leur forme on a l'estimation de leur volume, et quand on couple ça à la masse on a leur densité, donc on peut vraiment commencer à étudier leur structure interne en détail, et ça nous donne vraiment des conditions, des contraintes très fortes sur le moment auquel ils sont formés, et tout simplement le comment ils ont évolué très tôt dans leur histoire, est-ce qu'ils se sont différenciés ou non. Donc c'est vraiment des contraintes très fortes qu'on apporte sur ces objets-là, qui auparavant étaient beaucoup moins facilement obtenables avec les moyens antérieurs.
Est-ce que vous pouvez me raconter comment le Pierre Vernazza étudiant en est venu à étudier la planétologie ?
Alors c'était une histoire un peu chaotique, c'est-à-dire que j'ai fait des études d'ingénieur, et ça ne me plaisait pas du tout. Donc je réfléchissais chaque jour, qu'est-ce que je pourrais faire qui m'intéresse, et je me disais que la recherche ça pourrait quelque chose bien me convenir, je voyais quelque chose, j'étais plutôt créatif, c'est quelque chose qui pouvait potentiellement me convenir. Bon, j'avais pas de référent dans ma famille ou autre, ou parmi mes amis qui pouvaient m'en dire plus sur ce métier, donc bon, c'était un peu une supposition, sans connaître des gens particulièrement dans ces domaines respectifs. Et ensuite j'ai toujours bien aimé l'astronomie, donc c'est pas tellement l'astronomie qui m'a d'abord guidé, c'est d'abord la recherche, et ensuite dans la recherche l'astronomie me plaisait bien, donc j'ai postulé un 2A, j'étais pris, et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et ensuite, il y a eu un sujet de stage dans le domaine des petits corps, et c'est du système solaire, c'est comme ça que ça a commencé en fait.
Alors, pourquoi l'astronomie plutôt que d'autres disciplines ?
J'ai toujours bien aimé l'astronomie sans être un passionné. Hein. Je ne connaissais pas forcément les catalogues stellaires, enfin les constellations par cœur. J'aurais pu faire de la recherche dans un autre domaine, bien que j'avais une préférence. Ce que j'aimais beaucoup dans l'astronomie, en fait, c'était qu'il y a un peu de tout. Il y a une notion de mathématiques, une notion physique, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres disciplines, on va dire, au sens large. Et ça, c'est quelque chose qui me plaisait bien. Enfin, j'ai toujours bien aimé les deux matières. Il y a des gens qui sont plus mathématiciens, plus physiciens. Moi, j'étais un peu entre les deux. Et donc, un peu cette convergence des maths et de la physique me plaisait bien. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et qu'on retrouve qui est quand même relativement au quotidien dans l'astronomie d'une certaine manière, en particulier dans le système solaire, où il y a une partie dynamique et une partie physique.
Si vous aviez choisi une autre discipline, quelles sont les disciplines qui vous intéressent également ?
Tubulure blanche, j'ai toujours été un peu intéressé par l'histoire, et finalement là, ce qu'on fait, c'est déchiffrer un peu l'histoire du système solaire, hein, c'est faire un retour dans le passé, et c'est déchiffrer un petit peu les 4,6 derniers milliards d'années. Et peut-être que quelque chose comme l'archéologie m'aurait plu, j'ai toujours été un peu aimé remonter le temps et voir un petit peu ce qui s'est passé auparavant, ou alors la géologie terrestre, ou un peu déchiffrer le passé, c'est quelque chose qui m'a toujours plu.
Et dans votre travail de chercheur, est-ce qu'il y a des parties de votre travail que vous préférez par rapport à d'autres ?
Ce que j'aime bien, c'est réfléchir à de nouvelles idées, de nouvelles pistes à explorer, en fait. C'est la partie pensée, la partie qui passe nécessairement par beaucoup de lectures, lire ce que font les autres, déjà afin de se mettre à jour, de pas dupliquer ce qui a déjà été trouvé, et puis vraiment d'innover de manière assez significative par rapport à ce qui se fait. Et donc c'est vraiment cette partie de trouver des nouvelles idées, de trouver des nouvelles voies à explorer que je trouve la plus passionnante. Puis ensuite, évidemment, les mener des idées à bout, ça, c'est, quand elles sont innovantes, c'est ce qu'il y a de plus excitant.
Le métier de chercheur, c'est, j'imagine, se poser beaucoup de questions. Est-ce que, jusqu'à présent, certaines n'ont pas trouvé de réponse encore ?
Il y a des milliers qui n'ont pas trouvé de réponse. On pense toujours, quand on travaille sur la formation et l'évolution du système solaire, c'est comment nous, êtres humains, on est apparu sur Terre. Donc l'origine de la vie, c'est une question qui est intimement liée. Je pense pas qu'elle soit résolue avant la fin de ma carrière et même après, mais il y a énormément de questions. Et plus on progresse, plus il y en a qui surgissent. Donc c'est un fil qui se déroule à l'infini. On a l'impression qu'on n'a jamais fini d'explorer et d'avoir des questions qui surgissent les unes après les autres.
Alors pour vous, vraiment la question sans réponse qui est importante pour vous ?
La question sans réponse qui est importante pour moi. Je sais pas si je mets des priorités sur les questions. Je suis pas certain de fonctionner comme ça, en fait. Pour moi, c'est vraiment des questions importantes à l'échelle de 5-10 ans. Ensuite, les très 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 grandes questions comme l'origine de la vie, finalement, au quotidien, on n'y travaille pas vraiment dessus. Donc, je suis pas sûr que ce soit une cible en soi, ce genre de questions. Et c'est pas vraiment une cible en soi au quotidien, ni même à l'échelle de 10 ans. Donc, finalement, c'est des questions, entre guillemets, intermédiaires sur lesquelles on travaille. Et je ne mettrai pas forcément de priorité sur ce type de questions.
Si vous deviez qualifier votre travail en un mot, qu'est-ce que ce serait ?
Passionnant. Passionnant ou incroyablement différent dans le temps. Enfin, je veux dire, c'est jamais le même quotidien.
Et voilà pour l'interview de Pierre Vernazza. Merci Pierre pour votre participation et à la prochaine pour un nouveau podcast.